BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h pile, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Les experts, notez bien le nouvel horaire, 9h30, 10h30, toujours en direct et toujours tous les jours sur BFM Business, avec autour de la table Jean-Charles Simon, Céline Antonin et Leonidas Calogeropoulos. On va parler de ces tensions obligataires qui ont marqué la fin de semaine dernière. Je le rappelais tout à l'heure, hein, on a dépassé les 3,80 sur l'OAT française, mais c'est sur le UK c'est pire, sur les Américains idem, l'Allemagne a passé les 3%. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez Céline, je commence avec vous.
Oui.
Pourquoi ce brutal regain de tension sur le marché de la dette?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'une part, il y a une inflation dont on voit bien qu'elle ne va pas faiblir aussi rapidement. Il y a la question du détroit d'Hormuz. Il y a la question donc effectivement énergétique, d'approvisionnement également, puisque on a vu que les coûts d'approvisionnement avaient beaucoup augmenté. Les métaux rares, les engrais, enfin bref, donc tout ce qui transite par ce détroit. Donc on a d'une part ça. D'autre part, on a quand même, je pense, une crise de crédibilité budgétaire qui est en train de s'installer aussi. On le voit dans pas mal de pays.
Là, on va pas être bien.
Avec des dettes publiques qui ont augmenté, alors oui. Déjà avec la crise de la Covid d'abord, et puis aujourd'hui on est effectivement à des niveaux beaucoup plus élevés d'endettement dans plusieurs pays de la zone euro et ailleurs, hein, enfin donc que ce qu'on a pu connaître, et on a une politique effectivement expansionniste, et en fait on a l'impression que même les banques centrales ne savent pas trop quoi faire, parce que elles sont un peu coincées entre d'un côté une inflation qui repart et de l'autre, enfin donc ce côté inflationniste, de l'autre des dettes publiques importantes, enfin c'est voilà, donc c'est une équation qui est à mon avis très difficile à résoudre, et je pense que c'est pour ça qu'on voit un emballement. Alors j'ai vu que la Grèce ça allait un peu mieux, ce qui est assez paradoxal.
Mais oui, elle rembourse sa dette en avance.
Très intéressant. Donc, de voir devant cette flambée des taux que la France s'en tire pas si mal.
Oui, par rapport à d'autres pays.
Ça,
oui.
Mais c'est intéressant parce que en Grande-Bretagne, il y a.
Enfin, s'en tire pas si mal. On est à 3,82%.
On est plus cher que la Grèce là.
Oui.
J'entends bien. Non mais
bon, ils émettent pas beaucoup.
Non mais il y a une augmentation générale. Donc on est frappé par l'augmentation générale, mais dans ces augmentations générales, la Grande-Bretagne est beaucoup plus mal.
Oui, le spread franco-allemand est assez stable.
Est stable.
Assez
non stable. Mais voilà, c'est oui. ça non, la très très bonne nouvelle.
Ce que je trouve intéressant, c'est que dans une situation politique française inédite, on peut aussi voir que nous avons les bénéfices de la stabilité que le Premier ministre a réussi à conquérir au prix de concessions que nous avons beaucoup
que nous risquons de payer longtemps
et effectivement dont nous sommes beaucoup plaints. Mais il y a une résultante de tout cela, c'est qu'il y a un gouvernement qui tient, qui tient sa part de cap sur les déficits,
oui.
Et donc nous avons là l'annonce des 6 milliards qui crée tous les débats que l'on connaît en interne, mais néanmoins le signal qui est donné, c'est que la France est gouvernée, qu'elle pilote sa dette, et le résultat c'est que l'augmentation généralisée ne nous impacte pas autant que d'autres. Je trouve que c'est plutôt une nouvelle rassurante, il n'y en a pas beaucoup. Quant à savoir si, si la flambée des taux est une flambée qui nous menace de la crise. J'ai globalement l'impression que les tensions, on les connaît. Il y a l'inflation, il y a le carburant, il y a le détroit d'Hormuz, mais que ça n'a pas véritablement bouleversé les fondamentaux de l'économie mondiale. On n'est pas encore en situation de crash. Alors, si tout ça tient, alors s'il y a des tensions, la question que vous posiez, c'est est-ce qu'on va droit dans un crash ?
Est-ce que les marchés vont craquer ?
Moi, mon sentiment, mais je ne suis pas un spécialiste, un expert des marchés, c'est que on craque quand il y a une multiplicité de fondamentaux qui sont fragilisés. Là, on a quelque chose qui est très conjoncturel, et donc c'est normal qu'il y ait des tensions. Est-ce que on va droit au crash à cause de quelque chose qui est conjoncturel,
ou même structurel, parce que je pense qu'on a aussi une normalisation sur le marché de la dette. On a connu des années avec effectivement des politiques, même en termes de taux directeurs, de l'assouplissement quantitatif, etc. Et je pense qu'on est aussi vers une normalisation. Alors après, ça pose des questions parce qu'on a géré la dette avec une politique de taux très bas, sachant que ça coûtait pas grand chose. Là, ça pose toute la question, effectivement, de comment on envisage des finances publiques durablement dégradées dans un environnement de taux plus normaux. Et je pense que c'est ça toute la question, c'est d'arriver à faire cette bascule en fait.
Moi, sur le cas français, je vois pas d'exploit. Hein. Je vois quelque chose qui est normal par rapport au contexte européen global. Pour ce qui est de la situation globale, il faut quand même dire que l'administration américaine a un peu planté tout le monde parce que c'est une succession de décisions de l'administration américaine. D'abord, une décision sur les, on l'oublie maintenant, mais sur les tarifs douaniers qui est quand même majeure et qui crispe les échanges mondiaux, qui remet de l'inflation dans tout le circuit de l'économie mondiale, dégoulé d'étranglement un peu partout. Là, par-dessus ça, la guerre avec l'Iran qui se déroule pas de manière optimale, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque on a une situation dégradée sur le Golfe Persique par rapport à ce qui était avant, et on voit pas de, on voit au mieux le retour ex ante sur la circulation maritime dans le Golfe Persique. Donc tout ça évidemment est pas favorable. Des menaces régulières d'aller de poursuivre la guerre plus agressivement, et donc tout ça pèse aussi. Et puis budgétairement, faut pas oublier que les États-Unis eux-mêmes sont les premiers fauteurs de troubles, parce qu'ils sont les premiers à aller très très loin dans l'expansion budgétaire, avec à la fois des mesures fiscales et des mesures de dépenses. Et tout ça, ça pèse aussi. Ça veut dire quand même beaucoup d'inondations. D'émissions sur le marché pour ce qui est des titres souverains que les gens peuvent rechercher. Et les trésors, les treasuries sont évidemment la première souche sur laquelle on tire. Et
oui.
Donc tout ça fait quand même pression. Et là-dedans, on ne voit pas vraiment... Alors, les banques centrales, effectivement, vous avez raison, elles sont un peu coincées. D'autant que moi, je ne suis pas complètement convaincu que la séquence de remontée des taux ait vraiment été la cause de l'assagissement de l'inflation par rapport à la période... Covid, c'est le grand discours de la BCE et de ça et de la Banque de France
ça a été brutal en même temps.
Mais c'était quand même plutôt une cause qui était relativement exogène. Donc c'était pas nécessairement un système d'emballement type années 70. C'était pas du tout ça. Donc on était sur quelque chose de différent et puis qui s'est résorbé à partir du moment où toutes les contraintes post-Covid tombaient.
C'est un choc de prix plus qu'une inflation.
Oui,
exactement.
C'est important parce qu'il y a une différence entre l'inflation externe l'inflation d'origine externe, absolument, un choc pétrolier. Je veux dire, la banque centrale peut faire ce qu'elle veut, elle n'enrayera pas le fait que
le baril est à 120,
bloqué.
110 ou 120.
En revanche, c'est vrai que là où la banque centrale a un rôle à jouer, c'est quand il y a un surcroît de demande interne, c'est quand il y a de l'inflation interne et qu'il y a la fameuse boucle prix-salaire qu'on évoquait tout à l'heure.
Et on n'en est pas tellement là, puisqu'au contraire, les perspectives d'activité quand même commencent à se dégrader. C'est-à-dire que tout le monde commence à dire, c'est pas encore le drame, mais tout le monde commence à réviser plutôt à la baisse, FMI, Banque mondiale, OCDE, à réviser un peu à la baisse les perspectives de croissance pour tout le monde. Ouais. Alors, ça devrait, a priori, éviter d'alimenter, mais si la partie offre continue d'être aussi contrainte et malmenée, comme c'est le cas avec Hormuz, forcément, ça, c'est difficile à gérer, et c'est pas les hausses de taux qui vont changer ça. Donc, c'est ça qui est compliqué dans l'action d'aujourd'hui. Et tant que l'administration américaine, reviendra pas à quelque chose qui est à la fois plus lisible, plus prévisible, et qui, n'enflamme pas de manière récurrente les marchés, c'est clair qu'on aura du mal, à mon avis, à rentrer dans une zone de normalisation. Et c'est vrai que la zone de normalisation, c'est pas les années 2010. Hein. Vous avez là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les années 2010, c'est des années anormales.
Oui, tout à fait.
Mais malgré tout, là, on est aussi dans une période atypique parce qu'il y a un comportement d'une administration dans sa politique étrangère, dans sa politique commerciale, qui est particulièrement déstabilisatrice.
Bon, mais l'atypique, il est un peu permanent la crise financière, c'est ça.
Il y a plus de
C'est le nouveau typique, si je puis dire.
Maintenant, la réponse à cette situation par le G7, c'est intéressant. On se demande presque d'ailleurs s'il ne faudrait pas un G6, parce que l'un des problèmes majeurs qui va devoir être abordé dans ce G7, c'est le comportement de l'un des membres, qui est effectivement le comportement des États-Unis.
Eh oui.
Donc, est-ce que le G7 est le bon endroit pour que les 6 autres s'adressent aux États-Unis pour leur dire, écoutez, vous êtes quand même en train de totalement déstabiliser l'économie mondiale et vous n'êtes plus véritablement dans un comportement d'allié, mais il n'est plus en comportement d'allié sur le moindre sujet.
Avant qu'on passe au G7, effectivement, Céline Antonin, je voulais qu'on vienne quand même sur d'un mot, mais c'est l'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fed. Alors qu'il n'est pas à Paris ce matin, c'est le numéro 2 de la Fed qui a été envoyé finalement, mais il arrive dans un contexte quand même très particulier, Kevin Warsh, avec cette flambée des taux là.
Ouais, tout
Qu'est-ce qu'on attend de lui à court terme ?
Quels sont ces défis?
Alors lui, c'est vrai qu'en plus, il a plutôt un profil hawkish. Alors je cherche le mot en français, donc plutôt dur, quoi. Enfin, par rapport à l'inflation, je veux dire.
Faucon.
Voilà, exactement, faucon. Merci. Je ne trouvais plus l'animal. Donc
par opposition
donc,
aux colombes.
Aux colombes, voilà. Donc c'est plutôt le. Mais il va devoir gérer effectivement à la fois l'inflation et le ralentissement économique.
Donc ça veut dire.
Économique.
Mais si vous dites qu'il est hawkish, faucon, ça veut dire qu'il faut s'attendre à des hausses de taux.
Normalement,
de,
mais en même temps, Trump. Enfin voilà.
Trump veut le contraire. Trump veut le contraire.
Le marché de l'emploi est quand même pas au mieux non plus voilà. Aux États-Unis et où le président réclame absolument le contraire.
Tout à fait. Donc il est pris en tenaille entre ce ralentissement économique, l'inflation d'un autre côté. Donc j'ai beaucoup de mal à voir la manière dont il va piloter les choses. J'avoue que je c'est pas très clair.
Moi je pense que justement comme il a été suspect d'être une sorte de nomination du fait du prince.
Oui.
Je pense qu'il va vouloir justement se démarquer de ça et qu'il va plutôt aller vers une hausse des taux.
Il avait un profil plutôt rassurant hein, voilà. Il a été bien accueilli par les marchés.
Non mais c'est pas
un professionnel.
Par rapport à d'autres nominations de l'administration américaine ou des pouvoirs américains où il y a quelques cas quand même pour le moins discutables, il n'est pas discuté en termes de compétences et de savoir-faire. Non. Il peut être discuté en termes effectivement d'indépendance de la Fed par rapport au pouvoir politique. C'est ça qu'il va vouloir, à mon avis, justement, essayer de surmonter au moins au début en disant, écoutez, je suis indépendant, j'exerce pleinement mes pouvoirs de gouverneur et donc, première décision, le président n'est peut-être pas content, mais je dois réaugmenter les taux parce que la situation sur le front de l'inflation est telle aux États-Unis qu'il faut essayer de la de figer un peu de cette poussée et de la contenir.
Si
et donc je
suit,
pense
oui,
qu'il va plutôt être dans cette
attitude-là. Parce que s'il suit strictement son mandat, mais c'est vrai qu'il y a aussi la question aux États-Unis, contrairement à la BCE, de l'emploi et qui voilà.
Oui, c'est un double objectif.
Elle n'a rien à faire du tout.
Moi, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, il va peut-être rester sur un statut quo. Mais bon,
peut-être.
Mais c'est enfin voilà, c'est vraiment.
Je serais surpris qu'il accède à la volonté de Trump de baisser les taux, parce que là, pour le coup, tout le monde lui tomberait dessus sur le thème. Écoutez, c'est pas raisonnable et c'est pas conforme à la situation macroéconomique américaine aujourd'hui. Mais on verra effectivement.
Ce sera un vrai test pour l'indépendance de la réserve fédérale américaine.
Ce sera un vrai test. Et c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu les hommages que François Villeroy de Galhau a rendus à Jérôme Powell qui était à Paris il y a quelques jours. C'est vraiment un cycle qui se termine. C'est-à-dire de rapports très très autonomes au pouvoir politique et d'exigences d'indépendance de toutes les banques centrales qui s'entendaient bien entre elles. Là maintenant, on en se retrouve avec une qui a au moins, je dirais, une forme d'attitude et de rapport à son pouvoir politique qui est différent de ce qu'elle était quand on avait à Jackson Hole les meetings des banquiers centraux qui étaient tous alignés sur le fait de dire c'est pas la politique qui va dicter notre choix en matière de politique monétaire.
Question courte, réponse courte à chacun d'entre vous. Est-ce qu'il faut craindre un crack sur les marchés après cette poussée des taux, Léonidas?
Non, c'est pas mon sentiment.
Moi non plus.
Céline?
Moi non plus.
Jean-Charles? Voilà, donc tout va bien. Pas de panique, on peut continuer à investir sur les marchés selon les experts. Ce matin, on en vient au G7 Finance. Oui. Effectivement, où le numéro 2 de la Fed est arrivé ce matin, Scott Bessent aussi, et l'ensemble des grands argentiers des 7 grandes puissances économiques mondiales. Au programme, rééquilibrer le commerce mondial, réduire la dépendance aux minerais critiques chinois, sous-peser l'impact de la guerre au Moyen-Orient, un menu chargé, bien sûr, mais des participants rarement alignés. Alors, ça sera tout le but des Français, hein, trouver une ligne commune entre des positions parfois divergentes. Léonidas, est-ce qu'on peut encore discuter entre nous à l'heure des empires ?
Écoutez, je pense que de toute façon, la nécessité pour l'Europe élargie, j'allais dire, c'est une nouvelle notion. On est en train d'intégrer le Canada à l'Europe. Je trouve que c'est une belle image.
Marc Carnet était effectivement en Europe la semaine dernière.
C'est intéressant de trouver que le Canada se ressent plus proche de l'Europe que de son voisin frontalier. Mais il y a en tous les cas la nécessité de le faire. Et je vois bien que sur un certain nombre de sujets, comme par exemple le fait de libérer les réserves de carburant pour faire baisser la pression sur les tensions pétrolières, ça a été une décision collective.
Oui.
Donc il y a quelques sujets, probablement les terres rares, pour lesquels on peut se coordonner. Il y a manifestement des sujets sur lesquels on peut prendre des décisions, donc il faut le faire. Encore une fois, mon point de doute, c'est est-ce que ce G7 accueille à bon droit les États-Unis avec le problème du numérique, la question des douanes, les guerres intempestives, la menace de ses voisins, l'abandon de ses alliés. Les États-Unis sont aujourd'hui le problème principal auquel nous avons à faire face.
Alors la question, donc, c'est est-ce qu'il faut mieux en parler avec ou le sortir mais, du
donc pour moi, la principale question de ce G7, ce n'est pas que le G7 se réunisse entre alliés qui veulent travailler en commun pour répondre aux défis majeurs qui sont devant eux, c'est est-ce que il ne s'agit pas de dire que les États-Unis sont, c'est pas un adversaire, c'est pas un ennemi, mais c'est aujourd'hui dans la logique des grandes puissances, la Chine, les États-Unis, la Russie sont aujourd'hui des puissances par rapport auxquelles le reste du monde doit s'organiser. Je verrais davantage d'efficacité aujourd'hui à avoir un G6 efficace et qui prenne des décisions qu'un G7.
Vous sortiriez les États-Unis
sans grande...
au banc des grandes puissances mondiales.
Pas du rang des grandes puissances mondiales, mais oui. de la coalition des grandes puissances qui réfléchissent à un positionnement cohérent face aux autres. Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous
avons voilà la preuve que le multilatéralisme. Je pense qu'il faut malheureusement,
je comprends
complètement ce que dit Leonidas. Je pense qu'il faut justement essayer de continuer à se parler. Il faut essayer de continuer à se parler un maximum. Scott Bessent est d'ailleurs pas le plus mauvais interlocuteur de l'administration américaine, loin s'en faut, en essayant de se dire qu'est-ce qu'on peut trouver quand même, puisqu'on voit bien qu'on est dans une situation qu'on vient d'évoquer juste avant, qui se complique pour tout le monde, parce que c'est pas bon non plus pour le trésor américain ce qui se passe. Oui. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour essayer de faire descendre la pression qui existe depuis le Liberation Day, l'élection de Trump? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui soit constructif, qui soit dans vos marges de manœuvre politique et qui nous permettrait de faire quelque chose de positif? Moi, il y a un autre acteur dont je trouve la position intéressante, vous l'avez peut-être vu dans les échos, c'est Rachel Reeves, la chancelière de l'échiquier britannique, qui elle essaie de jouer un jeu en disant me mettez pas à côté les Européens, moi j'ai vraiment envie. Et on voit, c'est pas du parce que là c'est vraiment un pays qui souffre en termes de crise politique interne. Bravo. Et donc de conséquences justement sur les taux britanniques, avec un risque à nouveau d'emballement à la Liz Truss de 2022, en disant écoutez, non mais moi je veux vraiment coopérer avec vous, je veux
elle souhaite reconstruire une relation plus forte avec l'Union Européenne.
On retrouve des marges de discussion et puis de la communauté de décision, et on peut pas dire à notre population qu'on veut revenir en arrière sur le Brexit, mais en fait on aimerait bien que les effets soient moins forts que ce qui a été décidé au moment de la séparation. Et c'est vrai notamment sur le secteur financier, parce que un des grands objectifs de la City, c'est d'essayer de récupérer ce qu'elle a perdu au bénéfice de Paris largement, ce qu'elle a perdu à ce moment-là avec le Brexit. Et donc évidemment les Britanniques veulent essayer de pouvoir continuer à être le grand vendeur de services financiers au monde entier avec l'Europe derrière, et c'est pour un enjeu important, y compris de retrouver justement du soutien d'investisseurs qui là s'inquiètent de la situation du Parti travailliste et de
juste un complément, Jean-Charles. Il y a un pays qui, je trouve, aurait totalement sa place dans ce G7, c'est la Norvège, qui est le grand allié des pays occidentaux sur la question de la fourniture énergétique. Heureusement qu'on a le gaz norvégien, qui est un grand allié de l'Europe sans être dans l'Europe. Il y a là un modèle de coopération rapprochée qui pourrait très très bien convenir à la Grande-Bretagne et qui permettrait d'avoir
il y a différents cercles de coordination.
Exactement,
au niveau
des cercles concentrés de coordination.
Européen géographique.
Et
si
nous avons
dire.
Absolument besoin d'avoir cette grande Europe, si je puis dire, qui dépasse les frontières de l'Union et dans lesquelles les États ont totalement leur place, qui doit devenir une puissance, qui n'est pas une puissance conquérante et dominatrice comme le sont les autres, mais qui est une puissance stabilisatrice. Et je pense que cette capacité que nous avons à créer ces alliances, à prendre des décisions cohérentes, ça a véritablement du sens par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on ait des cercles dans lesquels on discute avec les États-Unis, mais on voit bien que ce G7 ne va pas pouvoir aller très très au-delà de ce dialogue.
C'est rarement le cas.
Oui, c'est ce que j'allais dire en même temps. Les G7 n'a pas négocié des virgules sur des communiqués.
D'accord, mais on a des choses à bâtir pour rééquilibrer le monde en termes du multilatéralisme sans les États-Unis, avec d'autres pays. Et cette nouvelle combinaison, je crois, est en cours.
Leonidas Kalogeropoulos, c'est pour un multilatéralisme régional. Mais on vient les États-Unis. Qu'en pensez-vous?
Est-ce qu'on met le Canada, on met dans le régional? Je ne sais pas.
Bon, moi, je souscris par tout ce qui a été dit par Jean-Charles et par Léonidas, donc j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que je pense qu'il y a, il y a un aspect important qui est la capacité de l'Europe, en fait, à s'affirmer comme puissance. Et je pense que c'est l'occasion de le voir aussi lors de ces sommets, parce qu'on voit que les États-Unis ont quand même, bon, je veux dire, ils ont leur voix, ils ont leur message. La Chine défend ses intérêts très bien. L'Europe ne le fait pas toujours à très bon escient. Et il y a plein de sujets sur lesquels il n'y a pas vraiment de consensus, où les pays quand même jouent chacun de leur côté. Et donc, je trouve que malheureusement, souvent, ce genre de rencontres montrent justement les dissensions européennes. Et ça, je trouve que c'est ce qu'il faudrait, en fait, éviter à l'avenir. Et c'est ce qui, moi, m'interpelle en général le plus. Parce qu'effectivement, il se négocie pas beaucoup de choses, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même en général des puissances assez offensives,
oui.
Et que l'Europe est finalement celle qui l'est en général le moins. Et donc, bon, je pense que ça doit nous interroger sur notre capacité justement à pas être des bisounours en fait aujourd'hui.
Oui,
donc,
mais vous voyez, la capacité que l'on a à faire travailler différents pays ensemble sur les terres rares pour se libérer de l'emprise de la Chine, je trouve que c'est un sujet assez intéressant. Et il y en a un certain nombre. Je pense que, vous voyez, le numérique est un sujet sur lequel nous gagnerions à avoir une véritable coordination des États qui ne souhaitent pas être dans un jardin de bien encadré. On appelle ça des walled gardens, et c'est principalement les acteurs américains. Je ne vois pas ce que l'on peut aller chercher en termes de consensus sur le numérique en ayant les États-Unis autour de la table. Ce sont pourtant des sujets majeurs.
Ça, je suis tout à fait d'accord, mais simplement sur, par exemple, les questions des GAFAM et autres, on voit bien que même au sein de l'Europe, on a quand même des difficultés à avoir un consensus.
Mais là, on n'a pas la même position,
Oui, tout à fait, mais c'est vrai que c'est... C'est difficile d'aller porter une parole quand déjà, nous, on n'est pas capable de nous mettre d'accord entre Européens. Et c'est vrai que...
C'est la faiblesse intrinsèque. Pour moi, la faiblesse intrinsèque du système, c'est que, bon, il y a quelques sujets en politique étrangère, ça ne va pas trop mal entre pays européens, mais sinon, les sujets de fond, y compris d'ailleurs de renforcement de la puissance économique européenne, qui est le cœur du sujet quand même. Le cœur du sujet pour nous, aujourd'hui, pour nos pays, c'est qu'on est... en train de perdre du terrain, et que ce terrain, on en a pas mal perdu depuis la crise financière, et on continue de le perdre. Et on continue de le perdre parce que on ne sait pas faire les réformes, on ne sait pas gouverner l'Europe de manière efficiente en termes de prise de décision, notamment parce que l'absence de règle à la majorité sur
la règle de l'unanimité, effectivement,
est un problème majeur et nous empêche d'avancer efficacement et de vraiment avoir une rapidité de décision et une puissance de décision qui nous permettrait d'être vraiment cette puissance économique et puis d'unifier les choses.
Moi,
j'ai été très frappé par l'audition d'Arthur Mensch parce que c'est quelque chose que je vis depuis 25 ans où j'ai été lobbyiste.
Et vous pouvez revoir sur le site de l'Assemblée nationale, elle est absolument
elle est passionnante parce qu'il dit, il va tout de suite au cœur des choses en étant la victime de ça, c'est-à-dire que je veux, comme licorne européenne, me développer rapidement. Bah, en fait, j'ai 27 marchés du travail, j'ai 27 fiscalités, j'ai 27 règlement sur la création d'entreprises. Donc j'ai des contraintes qui font que ce marché unique dont on me parle tout le temps, il n'existe pas dans les faits. Il n'existe pas. Je suis obligé d'aller lutter pour faire ce que quelqu'un qui est à San Francisco et qui veut vendre à New York et dans le Texas n'a pas à faire. Et donc je suis fragilisé par rapport à mes concurrents là-dessus. Je suis fragilisé parce que ce grand marché, justement, il n'existe pas. Et je suis fragilisé aussi parce que j'ai pas un grand marché des capitaux aussi puissant que le marché américain ou la puissance étatique chinoise derrière. Et ça, je l'ai pas, notamment parce que, on revient à des sujets de départ, parce que j'ai pas de retraite en fonds de pension. Et donc, j'ai pas assez de capitaux à fond qui arrivent derrière et qui font un marché aussi développé qu'il l'est dans les deux grands empires.
Ce qu'a rappelé Mario Draghi la semaine dernière,
Aix-la-Chapelle,
a reçu le prix Charles Michel.
Et une illustration de notre faiblesse. Alors, je souscris complètement à ce que vous avez dit, mais une illustration aussi, en plus, de notre faiblesse en tant qu'Européens, où on est quand même un peu la victime sacrificielle. Enfin, je caricature à grand trait, mais de ce qui se passe aussi entre les États-Unis et la Chine, c'est que je prends l'exemple de ce qu'a écrit récemment le CEPI sur le second choc chinois, justement sur l'idée que, bah, puisque les produits ne vont plus aux États-Unis, bah, en fait, ils inondent l'Europe. Et c'est vrai qu'on est quand même assez démunis face à ça. Et donc, je pense que la grande question qu'on doit se poser, avant même le G7, c'est comment nous, Européens, on arrive à être une puissance et comment
C'est frappant. Voilà, vous avez vu tous les mouvements des fabricants d'automobiles chinoises qui disent, bon, bah, en fait, il faut que j'écoule en Europe parce que c'est mon seul grand marché développé sur lequel je peux écouler. Puisque Trump me ferme le marché américain.
Alors que l'automobile allemande aurait, enfin je veux dire, l'automobile allemande aurait de quoi essayer de devenir un leader sur l'électrique et autres.
Dans les grands ports européens, vous voyez tous les stocks de BYD et d'autres constructeurs qui sont à écouler et à vendre chez nous.
C'est ça. Mais y a des pays qui accueillent très volontiers justement
BYD. Il faut qu'on s'en rende compte comme étant un facteur un levier de puissance. Ouais. Ce n'est pas uniquement un levier de vulnérabilité. Encore faut-il que nous nous sentions légitimes à un moment donné pouvoir mettre des droits de douane qui soient des droits de douane dissuasifs et qui soient des ripostes. Je pense que si nous ne sommes que dans une posture consistant à dire nous voulons dialoguer pour trouver des consensus, non, on ne va pas pouvoir dialoguer pour uniquement, on ne va pas uniquement résoudre par le dialogue le fait de dire aux Chinois que l'on ne va pas laisser notre marché être totalement envahi dans le textile, dans l'automobile.
On est dans une position compliquée parce qu'aujourd'hui, on est une puissance quand même exportatrice, l'Union européenne, vis-à-vis du reste du monde.
Et ce 365 milliards d'excédents, la balance courante quand même en 2025.
Et donc, évidemment, le jeu...
Des questions d'équilibre.
Oui, le jeu de la guerre aux tarifs, elle n'est pas forcément évidente côté européen.
D'accord, entre le rien du tout et les purs calibrés.
Je crois vraiment qu'on devrait se focaliser d'abord sur nos problèmes internes. Comment faire de l'Europe une grande puissance économique moderne qui permet de se dire que justement on est pas à la traîne,
Je pense qu'on est d'accord sur le fait que nous n'allons pas uniquement devenir une puissance économique en régulant les puissances des autres. Il faut que nous-mêmes devenions une puissance, et c'est le cas notamment dans le numérique, où on a pensé qu'en mettant des règles partout, on allait pouvoir se protéger. Non, on ne se protège pas. Le raz-de-marée est tel que si nous n'avons pas nos propres acteurs à mettre en face des GAFAM, eh bien, on va se laisser couler. Donc, bien entendu, nous devons être puissants. Mais il y a aujourd'hui un raz-de-marée. Il y a un raz-de-marée sur le textile, il y a un raz-de-marée sur l'automobile électrique venant de la Chine. Il y a un raz-de-marée sur le photovoltaïque. Enfin, il y a un certain nombre de secteurs pour lesquels le temps nécessaire pour que nous devenions une puissance économique capable de rééquilibrer le marché est un temps que nous devons sauvegarder.
Oui, mais
pas.
On s'est en partie mis nous-mêmes le handicap. Je prends la voiture électrique, on s'est mis en partie nous-mêmes la contrainte en faisant en sorte que nos champions des véhicules thermiques les plus propres possibles soient finalement l'herbe coupée sous le pied qu'ils ne pouvaient plus ne pas attendre la transformation et le basculement vers l'électrique, alors même qu'ils partaient en retard sur l'électrique.
Il nous faut surtout des règles qui ne désavantagent pas les Européens. C'est surtout qu'en fait, on importe aussi des produits avec des normes qu'on ne demande pas, qui sont beaucoup plus exigeantes pour les nôtres pour ceux de l'extérieur. Et ça, aucun pays ne le fait, en fait. Je veux dire, tous les pays essayent quand même de promouvoir
qu'on ait une politique industrielle aussi.
Parce que
ce sera le mot de la fin. Qu'on arrête de se tirer une balle dans le pied. Ce sera le mot de la fin par Leonidas Calogeropoulos, que je remercie, ainsi que Céline Antonin, économiste à l'OFCE, et Jean-Charles Simon, président de Propriété et Liberté. Merci pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business, sur toutes les plateformes de diffusion, bien sûr.